Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, voici l'heure du documentaire qui, cette semaine, va nous ramener inexorablement à Paris et ses coléoptères, en passant jeudi par le métro où chante Méza, mercredi, Firmin Hiver et l'œuvre de Le Corbusier, mardi, le plateau de Mille Vaches. Aujourd'hui, cap sur la Bretagne, où Nejma Bouakra nous avait alerté, en 2014, sur la surexploitation du sable marin. Son projet commençait comme un dépliant touristique. De la côte de Granit Rose jusqu'au Trégor, se succèdent de magnifiques menhirs, des plages et des dunes fabuleuses, un site exceptionnel classé réserve naturelle depuis 1976, deux zones Natura 2000. Très vite, un bémol. Ici comme ailleurs, les industriels de l'extraction de sable, confrontés à l'épuisement des alluvions et à la surexploitation des rivières, se sont tournés depuis près de 30 ans vers un autre sable, le sable marin. Du coup, les pêcheurs à pied et en bateau s'inquiètent pour leurs coquillages, mais aussi pour leurs communes rurales encombrées par les camions transporteurs de sable. Sous le nom de Peuple des Dunes, une association milite pour défendre le paysage qui les abrite à égalité avec les phoques ou les cormorans.
Là, on est vraiment dans un site, dans un paysage terre-mer, où la terre et la mer sont imbriquées. Vous voyez, la marée est basse, enfin la mer monte, hein. C'est le l'anneau, hein, comme on dit en breton. Vous avez cette grève là qui représente aussi un autre territoire. Pour moi, c'est un petit peu l'enclos communal. Ça fait partie du territoire de la commune, hein, de la commune de Lannemaudet. On a donc l'eau qui arrive et qui va donc envahir la baie de Pommelin.
Guy Prigent, ethnologue du littoral.
La brume s'évapore un petit peu, hein, elle se dissipe, et puis vous voyez sur notre au sud, on a la petite île, l'îlot de Castaliard, l'embouchure du Trieux. Au fond, se détache dans la brume la pointe de l'Arc-Ouest, les îles de Bréa, le phare de la Croix, hein, qui donne l'alignement pour rentrer dans le Trieux. Et puis... caché plus vers l'ouest, l'îlot Qualen. On se sent bien dans une campagne littorale parce qu'on entend peu actuellement les oiseaux de mer et on entend davantage en fait les passereaux, les oiseaux de la campagne. Et je crois que c'est parce que la mer monte, et quand la mer monte, si vous voulez, bien le garde-manger de la grève n'est plus là pour les oiseaux marins. Alors que lorsque la mer se retire, vous allez avoir, nous sommes au mois de juin, là, on commence au mois de juin, les bernaches sont parties, mais on a les tadornes, on a d'autres oies qui sont présentes, et puis on a aussi d'autres oiseaux marins qui vont brouter les ulves ou bien d'autres algues, et puis chercher les puces de mer. Ou...
Un temps trop d'un autre, un petit tour à la grève. À la neige au mêlen velaou, les landes sont jaunes comme l'or. Si tu guisques d'un doigt au pauvre, et voilà habiller les terres pauvres. À Newi Amzer, le printemps, Ziulanezen, le fond de l'air est silencieux. Skild an air, et l'air est plein d'écho. Skild, ça veut dire fait de l'écho, là, comme ça. C'est usé des rapports, et voilà, joyeux le gars. Plus fresque niveau tout quat, de la paille fraîche dans ses sabots de bois, ascan et droite et léger son pied, Imber et Taïndro, ce soir il reviendra, gagne à l'anno avec le reflux, à l'anno. Ormes la cœur et les ormeaux et oursins dans les fentes sont. Sont chouchettes.
Chouchettes, chouchettes. Chouchettes,
ici que je vais trouver Chouchette. Chouchette, ça veut dire, tu vois, quand tu vas dormir, tu te chouches un peu aussi, quoi, tu vois. On se ramasse un peu. C'est le retour au sein maternel, finalement. La position du sein maternel avant la naissance. Chouchette. Tout le monde se ramasse un peu pour dormir. Les bêtes aussi, hein. Toutes les bêtes. Chouchette.
Cela me fait penser à la petite chanson d'Eugène Turnier, qui était recteur de Trégastel, donc un ancien curé, qui raconte que... Alors c'est une chanson qui parle des ormeaux en particulier, hein, et il dit que les ormeaux sont chouchettes, c'est-à-dire ils se blottissent, ils se recroquevillent, et les hommes ont construit des maisons qui sont un peu chouchettes aussi entre ces rochers. C'est tort, hein. Des maisons modestes aussi qui sont à la taille, à l'échelle de ces rochers et qui se protègent du vent du large, de la houle, de l'envahisseur potentiel et qui sont cachés aussi. Il faut vraiment les dénicher. Et on voit souvent que le tor et on voit pas la maison qui est à côté. Agantam troden nocet izider arapot, imberete indrogan alono. La Grève, c'est le territoire des gens de la côte. C'est un lieu qui était vraiment approprié par les gens du lieu. On parle d'estran. L'estran, c'est un vieux mot français qui signifie justement la grève. C'est un territoire où il y a des mots. Chaque rocher prenait le nom du goémonier ou du cultivateur qui allait chercher le goémon sur cet îlot rocheux. Parce que chaque ferme, en fait, disposait de son champ d'algues qui était balisé par des cailloux. Mais dans la grève, il y a une toponymie qui est très spécifique où on emprunte beaucoup du langage de la terre. L'île au bouc, l'île aux chèvres, l'île verte, Enesglaz, l'île Qualen. Alors Qualen, c'est peut-être Quatluarn, le bois des renards, parce qu'il y avait un petit bois autrefois. Et puis vous voyez, dans le fond d'ailleurs, on aperçoit, je me demande si c'est pas justement un bateau, si c'est pas le bateau sablier du Trieux, avec son crapaud. Le crapaud, ça sert à, comme une pelle excavatrice, ça sert à extraire le sable. Oui, c'est lui, je le reconnais.
Sur les docks. Tant que le sable durera. Qu'est-ce que c'est comme type de sable ?
Alors là, je pense que c'est du sable coquillé. C'est des coquilles, en fait, brisées, avec du sable, simplement. Il y avait des gisements très importants de sable, y compris dans l'estuaire du Trieux. Mais le fait qu'on extrait énormément de sable aussi du Trieux, en fait, il s'est, des endroits où on pouvait passer à gué, on ne peut plus aujourd'hui parce que c'est des trous, en fait. Et ces trous se comblent avec les sédiments, avec la vase. Et ces sédiments vont boucher, par exemple, les kéos. Les kéos, ce sont les trous à congre, pour les congres, les trous à homards. Et ça a changé aussi complètement l'écosystème et la biodiversité du Trieux, où autrefois on pouvait pêcher de la crevette, de la plie, du bar. Et aujourd'hui c'est beaucoup moins pêchant parce que les eaux sont troubles. Vous voyez, du fait qu'on les ait énormément remués, que pendant des dizaines d'années on a extrait beaucoup de sable, on a quand même beaucoup exploité cet estuaire.
Le sable, qui l'aurait cru, est convoité du nord au sud de notre planète pour du béton, pour des intrants agricoles, et il se fait rare. Après avoir épuisé le lit des rivières, les industriels se tournent vers la côte. Quelle côte ? Ils sont tombés sur un os, plus dur que le granit, l'os breton. Non, ce n'est pas visible à l'œil nu le sable qui disparaît sur les côtes, sous la mer, à peine un trait de côte qui se modifie. Il faut l'observer sur une carte ou arpenter les lieux depuis des lustres. Justement, observez ces lieux et vous verrez les ombres des laboureurs pêcheurs de pied, décrits par François le maçon du parc au XVIIIe siècle, sur tous les jours de basse mer, des grandes vives eaux, celles des équinoxes. Pêche à pied, pêche côtière, les équipages se forment d'un moment à l'autre dans des embarquements de gré à gré. Chacun vit ici un peu grâce à l'autre. Sur la côte du Trégor Gouello, il n'y a pas que le granit Sarthe Rose qui est remarquable. observez plutôt ces hommes et femmes affairés à gratter le dessous des rochers, à les replacer exactement là où la pierre semble vivre. Il ne faudrait pas déranger les crevettes et les coquillages. Le paysage n'est pas un décor, c'est la partie d'un ensemble. Continuez votre promenade et vous verrez toujours de petits champs bien peignés, striés jusqu'à la mer, et des tracteurs, bec dans l'eau. Ce lien étroit, fragile et ténu avec la mer, celle qui se découvre sur la grève, demeure si précieux, une ressource indocile mais vivrière. Oui, une culture, celle de la côte nord en Bretagne, ça pose des limites, une culture, des modes de fonctionnement. Et ici, comme un seul homme, le peuple des dunes refuse l'exploitation massive de sable, comme d'autres refusent l'ostréiculture ou l'agriculture intensive, ceux qui prélèvent la ressource sans regarder sous le rocher ou labourent les champs jusqu'à les épuiser.
Une plage, c'est un lieu où on peut vraiment augmenter sa vie. Et tout le monde a besoin aujourd'hui d'augmenter sa vie. On vit dans un cirque, on a besoin d'une dimension de plus. À mon avis, ce n'est pas la métaphysique, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'idéologie, c'est un rapport à la Terre.
Kenneth White, auteur, poète, arpenteur.
Alors ici, sur une plage, au premier lieu, une sensation d'espace. Vous êtes face à la mer, donc vous avez déjà un espace hors de l'espace trop couru, trop parcouru de l'espace humain, quoi. Donc, une sensation d'espace, et donc une respiration. Ensuite, il y a un rythme. On sent le rythme de l'univers, du multivers, le rythme des vagues. Ensuite, il y a les marées, surtout sur cette côte atlantique. Les marées sont extraordinaires. C'est-à-dire que la plage change tout le temps. Autre détail qui est important, si vous connaissez un tout petit peu la géologie, dans n'importe quelle plage, dans cette plage-ci par exemple, vous allez avoir beaucoup de cailloux locaux. Mais il ne faut pas ignorer que grâce au mouvement des glaces, vous allez trouver sur cette plage des pierres venues de la Scandinavie et de l'Écosse.
Vous dites que le caillou est cosmopolite ?
Peut-être. C'est-à-dire que chaque caillou, effectivement, est un résumé de l'univers. Donc, là, vous êtes dans le local, mais aussi, si vous savez le lire le lieu, vous êtes dans le global naturellement. Là, vous avez devant vous là, une grande langue de terre, qui est un de mes repères, cette grande langue de terre, qui va jusqu'à Roscoff. Et au-delà de ça, c'est l'Atlantique. Et la géographie de la côte imprimée, disons, dans les veines de ma main presque, depuis l'Abervrac jusqu'au Sept-Îles, comme j'avais la géographie de l'Écosse dans la moelle des méseaux. Donc j'ai une sensation et une connaissance de toute cette côte. Donc j'ai un espace qui va de l'Atlantique, de l'océan Atlantique, à la côte bretonne et à une plage spécifique. Et tout ça, c'est relié dans mon esprit.
Ethnologue du littoral.
En fait, quand on s'intéresse, on va dire, c'est l'ethnologie du présent néanmoins, même s'il y a des retours dans le passé, donc sur les usages, les traditions maritimes, ce qui perdure, ce qui évolue, que ce soit les espaces côtiers eux-mêmes et puis la société littorale, ou les sociétés littorales, pourrait-on dire. Et ici, dans le pays, nous avons l'exemple des femmes de l'Ogivie de la mer, qui allait pêcher dans les prairies, les ormeaux, dans les îles, avec un petit canote comme celui-ci, la Waswen, aux avirons. Ils étaient quatre à bord, et on l'appelait un petit peu par dérision la barque des pisseuses, parce qu'évidemment, il n'y avait pas trop de moyens. Et elles allaient donc, en suivant le courant, uniquement à l'aviron, pour les pêcher dans les îlots. Et lorsqu'il y avait trop de vent ou trop de courant, parfois c'était un marin pêcheur qui pouvait les tirer, les ramener au port.
Quel est l'usage qui ne s'est pas perdu dans cette baie ?
Il y a encore les marins pêcheurs qui mettent des casiers pour pêcher les crabes verts, les goémoniers à pied avec leur tracteur qui viennent couper du goémon, les algues donc. Il y a des gens qui vont pêcher à la ligne, parfois qui mettent des filets aussi.
Il faut faire tout ça sans concession, ces usages-là, il n'y a pas de concession.
Oui, non, il n'y a pas de concession.
Y compris pour le goémon.
Y compris pour le goémon, cependant les goémoniers doivent noter la quantité, le lieu.
Donc, on peut dire qu'ici, la baie, la grève est en accès libre, c'est encore une sorte de bien commun.
C'est un bien commun. Je trouve que la notion de bien commun, justement, elle revient un petit peu aujourd'hui. Et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait aussi, quelque part, une forme de communauté, de communauté d'intérêt et qui s'autorégule. Ça veut dire qu'on partage des valeurs d'usage de la grève, de la côte, de la mer. Les paysans, qu'on appelle aujourd'hui les cultivateurs, n'est-ce pas ? En fait, ils vivent près de la grève. Et la grève, pour eux, c'est aussi un moyen, on va dire, pas forcément de subsistance, mais c'est aussi une façon de s'approprier aussi un territoire qui est proche de leur champ. On appelle la marée des Gapas au mois de septembre, la marée où justement les cultivateurs après les foins vont se libérer un petit peu de, on va dire, de la chaleur, de la poussière, de la sueur, vont aller se baigner aussi et puis vont aller pêcher à pied. Mais justement, moi j'aime bien aller sur la grève aussi pour pour rêvasser comme un lieu de d'observation de soi et puis de à l'intérieur de soi et puis en même temps retrouver des marques, des indices, des traces qui vous parlent sur la grève. Donc c'est... Il y a un usage qui n'est plus autorisé dans cette baie, c'est le mouillage des bateaux. Autrefois un bateau, ça fait partie d'ailleurs du droit maritime, un bateau doit pouvoir mouiller n'importe où. Et aujourd'hui, en fait, c'est réglementé, ce sont des mouillages groupés, et il y a des endroits où on n'a pas le droit de mouiller. Alors qu'ici, c'était un mouillage traditionnel des golettes de cabotage, des gabarres, en attente de remonter la rivière ou d'aller sur Paimpol.
Moi, par exemple, sur la côte ouest de l'Écosse, là où je suis né, où j'ai été élevé, avec mon père, on vivait un tout petit peu des ressources de la mer. Quoi. On faisait un peu de pêche, hein, maquereau par exemple. On ramassait des coques qu'on envoyait au marché de la grande ville pour augmenter l'économie de la maison. Et on ramassait des algues aussi, des algues, pour fertiliser les jardins, comme remède et comme nourriture. Donc, je ne suis pas contre l'idée de ressources, mais, la question, c'est quoi, combien et comment? Voilà les vraies questions qui commencent à se poser. Bon, en 2011 est arrivé ce projet complètement monstrueux d'extraction de sable coquillé dans la baie de Lannion. Je vais rentrer un peu dans les détails, là, parce que les détails sont importants. Quand on arrive à un certain projet d'extraction de sable coquillé dans la baie de Lannion, alors là, je me suis élevé, heureusement, avec beaucoup d'autres gens ici, qui se sont donné le bon nom de peuple des dunes, j'aime beaucoup ça. Alors, permettez-moi de revenir sur les détails. Extraction de 400 000 mètres cubes de sable coquillé par an sur une période de 20 ans, à 6 km au large de Trébandin, au large de là où nous sommes. Deux dragues aspiratoires fouillant et pompant les entrailles de la baie. Je le dis physiquement parce que c'est comme ça que je le ressens. Entre deux zones protégées par la convention Natura 2000. C'est-à-dire que, pour moi, quiconque connaît la convention européenne du paysage ou le livre bleu de la mer et des océans ne peut penser qu'un projet comme ça d'abord n'aurait jamais été proposé et aurait dû être rejeté d'office comme étant absurde. Absurde, absurde, absurde. Mais il a fallu suivre tout un processus. Comme vous le savez sans doute, à l'enquête publique de 2011, le commissaire enquêteur de la République a émis un avis favorable. C'était un acte légitime. Et les arguments ont été avancés par la compagnie, la société d'exploitation. Les arguments, alors, regardons les arguments quand même, parce que... Leur argument, c'était que s'ils ne faisaient pas ça, certains de leur personnel, un petit nombre, seraient en chômage. Bon, si ce projet se réalisait, le chômage serait infiniment plus grand, ça va de soi. Les pêcheurs seraient au chômage, les gens qui s'occupent de tourisme seraient au chômage. Donc on répond facilement à cet argument-là. L'autre argument, oh, on fait ça, bien sûr, pas pour notre profit, mais pour l'agriculture bretonne, ça. Parce que, bon, tout le monde reconnaît qu'effectivement, les sols bretons sont un peu acides, ils ont besoin d'être alcalinisés, d'accord. Mais il y a d'autres moyens, il y a bien d'autres moyens. Beaucoup de gens ici connaissent ces moyens. Troisième chose, oh oui, bien sûr, nous aussi, on est pour la protection de l'environnement. Ben, bien sûr, bien sûr. Par exemple, la zone à exploiter est en dehors des zones protégées. Il y a un bon kilomètre qui les sépare. Non mais, ça, ça a pouffé de rire, quoi. Comme on dit, c'est à taper le cul.
Il n'y a plus de courant marin.
Bien sûr, les courants marins, le mouvement des fonds, c'est absurde. Alors, je ne veux pas, ils ne peuvent pas être aussi ignares que cela. Donc, c'est simplement de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi en espérant jeter de la poudre aux yeux des gens, quoi.
Bonjour Odile Guérin.
Bonjour.
Bien, le mauvais temps se lève. C'est pas du mauvais temps, c'est une brume.
C'est une brume. C'est un temps magnifique avec des couleurs pastel, c'est très beau. Mais la brume se lève, ça y est.
Pourquoi cette brume ce matin?
Alors on appelle ça la brume de chaleur. Et on dit que c'est la brume qui mange l'orage. On est ici sur le début de la côte de Granit Rose. On devrait avoir un sable en accord avec les roches qu'on a aux environs, un sable rose grossier. En fait, c'est un sable qui a été amené par le vent il y a 2500 ans. Donc c'est un sable dunaire, éolien. Et on pense qu'il vient pas très loin, il vient probablement du Finistère. Et ça correspond à une époque où le niveau de la mer a été un petit peu plus bas. Dans la partie droite de la plage, vous voyez ces boules de granit hein, qui émergent du paysage. On a un paysage avec une roche qu'on voit est rose, d'où le nom de côte de granit rose. Et cette plage-là est la limite, puisque de l'autre partie de la plage, on a des roches qui sont sombres, on a des roches de couleur noire, on a des roches un peu plus grises. On a différents âges, puisque là, on va avoir les roches les plus vieilles de France, c'est-à-dire 2 milliards d'années, et qui vont côtoyer des roches beaucoup plus jeunes, qui n'ont que 610 millions d'années, alors que le granit rose de la côte de Ploumanac, lui, il n'a que 300 millions d'années.
Qu'est-ce qui est si précieux ici, sur la côte?
Ce qui est précieux, c'est qu'on a une côte qui est relativement intacte, en tout cas sur une grande partie de son estran. On a des îles. Donc on a un petit peu l'impression d'avoir une côte vierge, d'autant plus que ici en Bretagne, il y a une politique de protection et de rachat de terrain, notamment par le Conservatoire du Littoral et les espaces sensibles départementaux, donc sur les 4 départements. Et ça, c'est quelque chose d'assez spécifique de la Bretagne.
Et pourquoi cette décision? Pourquoi décider d'exploiter le sable finalement à 2 pas de la côte plutôt que de l'exploiter un peu plus haut en haute mer?
Alors le sable qui va être exploité, c'est un sable coquillé, donc formé uniquement de coquilles. À la différence ici, on a un sable qui est minéral. C'est une dune fossile hein, qui a commencé à se constituer il y a à peu près 9-10 000 ans. Et ce sable, en principe, est utilisé à des fins agricoles. Enfin, ceci dit, les besoins des Bretons en amendement calcaire, en carbonate de calcium, sont de l'ordre de 120 000 tonnes par an. On exploite déjà de ce sable-là 500 ou 600 000 tonnes, donc les Bretons ont ce qu'il faut. Alors pourquoi faire si près des côtes ? Ben, d'abord, il y a un gisement de sable, mais on sait qu'il y en a quand même un peu partout dans le fond de la Manche. Mais surtout, il est relativement peu profond et les bateaux qui vont l'exploiter, qui sont des bateaux anciens, ne peuvent pomper qu'à jusqu'à 40 mètres. On fait maintenant des bateaux qui vont pomper à 80 mètres, qui ont un rendement bien meilleur, bien sûr, hein, puisqu'ils peuvent pomper jusqu'à 10 000 mètres cubes. Mais les exploitants n'ont pas ces bateaux-là. Il y a une rentabilité immédiate puisqu'on a des vieux bateaux.
Mais vous, en tant que géologue, ça vous ennuierait peut-être autant que ce soit près de la côte ou un peu plus éloigné. C'est de toute manière remuer les sous-sols marins.
Oui, mais disons qu'il y a moins... la biodiversité est moins importante qu'en bordure du littoral. Là, l'exploitation sera à 6 km de la côte. Ce ne sera pas le même impact que si on est à 50 km. Alors, je ne dis pas qu'il faille le faire. Bon, on peut peut-être aussi réfléchir à d'autres moyens d'avoir du sable. Et notamment, ce que nous, on va mettre en place à Trébordin, c'est la récupération, le recyclage des coquilles. Des coquilles, d'huîtres, de moules, etc., qu'on coincera et qui auront tout à fait le même usage. Et là, on sera dans un circuit court, puisque les agriculteurs locaux pourront venir se fournir localement. Et c'est quelque chose que je pense que si ça marche, il faudra étendre évidemment à toutes les côtes, hein, pas uniquement à la Bretagne. Hein, parce que les problèmes d'extraction de sable, on en a en Bretagne, mais il y en a sur toute la côte. Vous en avez en Normandie, et puis vous en avez dans le golfe de Gascogne aussi.
Est-ce qu'on sait au fond ce que ça va provoquer, ou est-ce qu'on a une idée, une petite idée de la manière dont l'écosystème pourrait être bouleversé par cette exploitation de sable ?
Alors on a des idées par analogie quand on regarde ce qui s'est passé à d'autres endroits où il y a eu des extractions, comme par exemple la Horaine en baie de Saint-Brieuc. Les pêcheurs, quand ils parlent de ce site, ils disent c'est un désert. Quand ils passent avec leur bateau, les sondeurs s'affolent parce que l'eau est tellement turbide qu'elle n'arrive plus à capter l'écho du fond. Donc c'est sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés que le site a été détruit. Nous ne voulons pas de ça sur la côte de Granit-Rose, à proximité de la réserve des Sept Îles, dans une zone très touristique et dans une zone qui est relativement protégée. Nous ne voulons pas non plus perdre les emplois de nos pêcheurs.
Le Torrey Canyon, l'Olympic Bravery, le Boélène, l'Amokokadiz, le Gino, le Tagno, l'Erika, en 99. Autant de noms de marées noires, les petites communes du littoral ont aujourd'hui l'épiderme sensible à l'évocation des pollutions. La réserve des Sept Îles préserve quelques centaines de macareux, des petits phoques et des guillemots, et une immense colonie de fous de bassin. L'exploitation d'un banc de sable où se nichent les poissons entre la zone Natura 2000 et la réserve des Sept Îles jouerait un mauvais tour aux oiseaux de l'île Rusik.
Channel Nord-Sud.
Monsieur Lucien Ledrette, vous êtes, je crois, gardien de la réserve des oiseaux à l'île Rusik.
Oui, monsieur. Oui.
L'île Rusik se situe, je crois, au large de Peroskirek.
Oui, à 12 kilomètres.
En quoi consiste exactement le gardiennage de l'île Rusik ?
Ça, c'est pour empêcher les chances de détruire les œufs, n'est-ce pas ? Puis oui. Ne pas marcher trop parce qu'on enfonce tellement sur le...
Oui.
La terre est tellement molle, hein, alors on arrive qu'on casse les œufs.
Vous n'êtes pas seulement gardien des îles, je crois que vous êtes pêcheur aussi.
Je suis pêcheur maintenant, oui.
Oui, oui.
En principe, je pêche entre les deux îles. Alors là, je vois tout ce qui se passe. Oui. Et tant que les oiseaux ne volent pas, c'est que tout va bien.
Les macareux, ce sont des petits oiseaux vraiment charmants. C'est pour eux que la réserve a été créée. Alors le macareux, c'est un petit oiseau qui se tient tout droit comme un homme quand il est à terre. À terre, il n'y est pas souvent. C'est un oiseau pélagique, un oiseau de haute mer. Lorsque la Ligue française pour la protection des oiseaux, qui venait d'être créée en 1912, a décidé de protéger l'île Rouzic, c'est que des massacres s'y produisaient. Des gens venus de Paris se faisaient débarquer sur l'île avec des caisses de cartouches et faisaient des exercices de tir sur ces inoffensifs oiseaux qui venaient ramener de la nourriture à leurs petits dans leur terrier. Et puis après, c'était la photographie classique, vous savez, le pied sur le tas d'oiseaux morts. Eh bien, la Ligue a fait cesser ces massacres et la colonie de Macareux s'est peu à peu reconstituée.
Des oiseaux par milliers, ils volent vers les feux par milliers, ils tombent par milliers, ils se cognent par milliers, aveuglés par milliers, assommés par milliers, ils meurent.
Et les oiseaux, monsieur Lobier?
Les oiseaux, c'est effectivement le cas le plus dramatique cette fois-ci. Vraiment, l'absorption, simplement pour se nettoyer les plumes de quelques millimètres cubes de pétrole, a l'effet empoisonnement direct. Je sais qu'une espèce comme le petit pingouin, qui avait déjà eu du mal à se reconstituer après le Torrey Canyon, risque fort cette fois-ci de disparaître pour de nombreuses années. Il est certain que c'est très grave pour la vie faune.
Le gardien ne peut supporter des choses pareilles. Les oiseaux, ils les aiment trop. Alors ils disent, tant pis, je m'en fous, et il est un coup.
Au loin, cargo fait naufrage, un cargo venant des îles, un cargo chargé d'oiseaux,
Aven Léon, vous êtes donc le nouveau maire de Perros-Guirec. Et ici, dans cette région, dans ce département, des maires de gauche comme de droite, hein, vous êtes unis sur cette question, s'opposent à l'exploitation de sable en mer.
Oui, tout à fait, oui, parce que ce sera un grave danger pour l'activité touristique, notamment pour Perros, c'est ce qui est la principale raison, et puis l'environnement. Sur le domaine de la ville de Perros se trouve la réserve naturelle de cette île, et ça amènerait un grave danger pour toute cette faune. Ça perturberait complètement l'écosystème du secteur.
Comment vous expliquez à Van Léon que ce soit aussi bien des municipalités de droite comme de gauche qui s'opposent à ce projet? 13, je crois, municipalités, non?
Il y a 13 municipalités qui étaient concernées par l'étude, et plus des municipalités comme Perros qui n'étaient pas concernées, qui sont rajoutées, plus la communauté d'agglomération. Et là, il y a un enjeu qui est réel et sur lequel on ne peut que se retrouver, et on a exactement la même approche pour la protection de notre territoire. Et puis, c'est vrai qu'en Bretagne, il y a une vraie solidarité et qu'on se retrouve historiquement dans beaucoup de domaines, et cette solidarité, c'est avant les solidarités d'hommes et de femmes qui veulent défendre et promouvoir leur région. Les exemples d'extraction, les constats qui sont faits, c'est qu'une fois qu'il y a ce type d'extraction, on a un paysage lunaire derrière, il ne reste vraiment plus rien, parce qu'au fur et à mesure, forcément, ça se dépose, mais comme il est prévu quasiment de l'extraction sans arrêt, puisque je crois que c'est près de 340 ou 350 extractions qui sont prévues. C'est-à-dire qu'en permanence, il y aura un nuage. Vous savez, c'est comme vous tapez dans un tas de terre, et ben si la terre est sèche, et ben ça fait un nuage autour. Et ben c'est la même chose, mais ça sera dans l'eau. Et comme l'eau, ça retombe pas, puisque l'eau se déplace, il y a des courants, il y a des marées, et ben donc ce nuage se déplacera. Je vous dis, on s'est estimé sur une zone qui est 20 fois supérieure à la zone d'extraction, ce qui est considérable.
où se trouvent les dunes? Parce que nous cherchons le peuple des dunes, mais pour l'instant, nous voyons plutôt des rochers, du granit et du sable fin.
Ici, il n'y a pas de dunes. On trouve des dunes un peu plus loin, sur Port-Blanc et Penvénant. Et on en trouve un peu plus à l'ouest, sur un bout de Trégastel et Trébordin. Mais c'est surtout des rochers. Et la dune dont on parle, elle est sous-marine. Hein, c'est une dune hydraulique.
On trouve des plongeurs, alors.
Il y a des plongeurs. On trouve des plongeurs qui vont regarder la dune. Ce sont les privilégiés qui peuvent voir la dune sous-marine.
Ces moules-là ont été mises dans ce qu'on appelle des chaussettes. Vous en avez un exemplaire derrière ici, vous voyez.
Voilà.
Et ouais. Elles ont été mises donc l'été dernier à pousser. Et on va les pêcher cet été. Donc une chaussette comme ça, on va en tirer à peu près une quarantaine de kilos. Quoi.
Et nous sommes en pleine mer.
Et on est en pleine mer, donc la filière est installée. De chaque côté dans une profondeur d'à peu près 12 mètres plus le marnage, donc entre 12 et 20 mètres. Et les moules sont en suspension sur cette filière et restent en pleine eau toute la journée, toute la nuit. Et elles se développent comme ça pendant à peu près un cycle d'un an.
Jean-Yves, quoi t'en aimes ?
Donc vous êtes en fait sur un récif artificiel ici. Hein. Donc le parc, qui est équipé d'une dizaine de filières, abrite toute une faune de petits et plus gros poissons. Et ici, ce que vous voyez, ce sont des chinchards et des dorades.
On les voit en dessous, là, regardez.
Se régaler des...
Ça, c'est une dorade, là.
De ce qu'on rejette à l'eau, en particulier des moules cassés, tous les petits crustacés qui sont logés dans les chaussettes, etc. Tout ça, ça repart à l'eau. Et ils viennent en groupe, autour du bateau, essentiellement.
Ils ont l'air de s'y plaire. Casser, elle peut prendre la moule et la broyer. Hein.
Alors, il faut distinguer les dorades. Hein. Là, c'est des grisets, donc des petites dorades grises qui ne sont pas des prédateurs gênants pour nous, parce qu'ils ne vont pas attaquer les moules matures. Les dorades qui sont vraiment gênantes et qui représentent une grosse contrainte, ce sont les dorades royales.
Ah, qui broient,
donc, ils ont ces dorades royales dévastent. Les bouchots du Sion du Talbert, ils ont attaqué les bouchots de la rade de Brest, ils ont dévasté complètement les filières en Méditerranée. Enfin, c'est un prédateur vraiment. Enfin, pour nous, c'est très gênant. Il se trouve qu'ici, on les a pas encore vus. Hein.
Tant mieux.
Pour des raisons qu'on ignore.
Et les vents viennent d'où alors là?
Alors ici, on est dans une baie qui est ouverte à l'ouest. Les filières sont orientées est-ouest. La mer du vent, si vous voulez, qu'on voit ici, peut nous gêner, mais ce qui nous gêne le plus, c'est la houle, hein, qui vient d'assez loin en fait, hein, qui vient de l'Atlantique en général, qui remonte la Manche et qui transporte une énergie colossale. Mais quand on a des houles très importantes, il est assez difficile de stationner sur les filières, comme on le fait ici, parce que le bateau cavale, va d'avant en arrière, donc on s'abstient de sortir à ces jours-là.
Pourquoi venir en haute mer? Vous êtes un jeune conchyliculteur et vous avez donc demandé cette concession en haute mer, parce que c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, tous ces éléments.
Alors là, vous me demandez mes motivations personnelles, il y en a pas mal, mais disons que aujourd'hui, installer une nouvelle exploitation sur le littoral en conchyliculture, c'est pratiquement obligatoirement en pleine mer. Parce que le littoral est saturé d'usagers, je dirais, hein, entre la plaisance, les conchyliculteurs déjà installés, les pêcheurs, etc. Donc il faut s'orienter vers le large. Pour moi, ça passait par là. En plus, techniquement, c'est quelque chose qui m'intéressait, donc j'ai foncé. Quoi.
Thank you.
qu'est-ce qui peut se passer si les gens de la canne démarrent leur exploitation, hein. Donc l'extraction de sable coquillé. Donc moi je me suis renseigné auprès de biologistes qui m'ont dit que ce type d'exploitation va probablement changer localement la chimie de l'eau et donc le profil des planctons qui se développent dans cette eau. Donc il faut savoir que les conchyliculteurs sont à l'affût du développement de certains planctons qui sont néfastes, qui rendent les coquillages impropres à la consommation. Quand ces planctons sont présents, vous fermez l'exploitation.
Ça, c'est vous clair. Êtes endetté pour tout ça, pour le bateau, pour la concession?
Bien sûr. Moi, j'ai des emprunts de, je ne saurais pas vous dire le chiffre exact, mais c'est autour de 250 000 euros. Hein. Je me défendrai. Je ne laisserai pas faire ça. Je peux pas laisser quelqu'un arriver ici pour une dizaine d'années, me mettre à genoux et s'en aller gentiment, alors que moi j'ai tout mis là-dedans. C'est pas possible. Il y a trop de gens qui essayent, qui se battent là tous les jours pour essayer de faire de vivre et de faire fonctionner une économie locale. On ne peut pas laisser quelques personnes venir tout dévaster comme ça.
C'est pas tout neuf les conflits sur la ressource en Bretagne. La ressource est toujours plus faible finalement que le nombre de personnes qui prélèvent.
Oui, mais enfin, les gens peuvent être en compétition les uns avec les autres, mais il n'y a aucune activité là qui va nuire de manière aussi importante à celle des autres, quoi. Et on ne peut pas, on ne peut pas prendre ce risque, quoi.
Vous acceptez de coexister avec d'autres?
Moi, j'ai demandé aux autres si je pouvais m'installer là. Tout le monde m'a dit oui, je me suis installé. J'ai forcé personne. Hein. Ça a été fait dans les règles de l'art. On m'a dit oui, je me suis installé. Et puis, je crois que pas mal de gens sont contents que je sois là. Hein, depuis les dorades jusqu'aux pêcheurs plaisanciers. Et puis aux consommateurs de ce produit qui est quand même sympa, quoi.
Il y a 7 ou 8 bateaux, là, je ne sais plus combien ils en sont, donc effectivement c'est une activité importante, parce qu'un bateau c'est 2 ou 3 hommes, hein, et puis ça génère des emplois. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Tu as eu ici aussi une activité importante de sardines.
Alors ce port, Loquebo, a été donc pendant 30-40 ans le premier port sardinier de la côte nord de la Bretagne. Alors bon, la sardine a disparu dans les années 50. Et depuis, les bateaux se sont reconvertis. Alors, il y a moins de bateaux. Hein. Ici, il y a eu jusqu'à une cinquantaine de bateaux, vers 1910-1920, par là. Et aujourd'hui, il n'y a plus que donc 8 bateaux à peu près, 7-8 bateaux. Alors, ces bateaux font la pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, en hiver. Et là, ils sont rentrés depuis quelques semaines et ils pêchent des espèces plutôt nobles, de la lotte, du bar, du homard, etc. dans la baie ici. Tout ce qui est dépendant, effectivement, de la dune de sable coquillé. Nous sommes à Loquemo, qui est donc le port d'une commune qui s'appelle Trédrez-Loquemo. Et c'est demeuré donc un petit port de pêche qui est un petit peu reconnu comme le port de pêche du Trégor.
Et nous sommes donc avec là des militants du peuple des dunes, donc Alain Bidal. Hein,
vous êtes le président du collectif, voilà. Collectif qui aujourd'hui est composé d'une cinquantaine d'associations, hein, et d'organismes professionnels, dont les pêcheurs professionnels.
Et donc le maire donc, de Loquemo, vous-même, vous êtes donc un fervent militant du peuple des dunes. Vous êtes là depuis le début. Hein,
tout à fait. Nous soutenons, et d'ailleurs on peut signaler que non seulement ma commune, mais également toutes les communes littorales du secteur et la communauté d'agglomération donc de Lannion-Trégor Communauté, que je préside aussi par ailleurs, ont tous pris position contre l'extraction de sable coquillé et ont apporté leur soutien donc à l'association du peuple des dunes.
Ici, ce petit port, qui est encore un port en activité, il serait directement impacté par l'extraction ?
Tout à fait. Alors, il serait impacté à différents ordres. D'abord, la pêche, l'activité de pêche, évidemment, puisque la dune de sable coquillé qui est menacée est un lieu de reproduction du lanson. Et le lanson, c'est le début de la chaîne alimentaire de beaucoup d'autres espèces qui sont pêchées. Nous sommes également menacés sur le trait de côte. Nous avons subi récemment, donc en 2008 et puis cette année en particulier, des tempêtes très importantes. Les vagues passaient par-dessus le port. Et donc, si on enlève donc la dune qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, on enlèvera une protection très importante pour notre trait de côte. C'est arrivé dans beaucoup d'autres endroits à travers le monde. Donc nous voulons empêcher tout ce qui serait susceptible d'aggraver le recul des côtes.
Ce n'est pas votre premier combat, j'imagine, ici. Il y a eu d'autres avanies sur la côte, hein.
Nous sommes un secteur qui a subi d'autres catastrophes, en particulier donc des pollutions pétrolières. Nous avons été touchés par la première grande pollution qui était celle du Torrey Canyon en 67. Nous avons été très touchés par la Mococadis en 78. Et puis nous en avons eu d'autres, hein, le Tagno, etc. Et récemment encore, donc quelques petites pollutions d'un autre type par des pertes de conteneurs en mer qui ensuite génèrent des pollutions donc sur la côte.
Donc les marées noires, les marées vertes, et aujourd'hui on nous annonce un nouveau programme qui va comporter les mêmes schémas. On aura d'abord une catastrophe écologique, c'est vrai, et il y aura aussi une atteinte forte sur les emplois ici. Un seul exemple, cette zone d'extraction de sable est un lieu essentiel de travail des pêcheurs professionnels. Si vous les interrogez, ils vont tous à cet endroit. Il y a à peu près dans cette zone 50 bateaux entre le quartier de Morlaix et le quartier de Paimpol qui naviguent. Ils sont deux à peu près par bateau, 100 personnes. Mais pour un emploi de pêcheur professionnel, il y a 4 emplois à terre. Donc on a déjà 500 emplois, pas tout de suite bien évidemment, mais sur le long terme ou à court terme d'ailleurs, qui pourraient être directement touchés.
Il y a de la vente directe, circuit court aussi pour les espèces donc, qui sont pêchées ici. Enfin, cette activité est très vivante ici et nous tenons, parce que c'est une activité primaire. Dans l'économie, il n'y a plus tant que ça d'activité primaire, si vous voulez. Si on fait cette extraction, c'est irréparable, c'est irréversible. Alors que, vous voyez, bon, on a de la pollution par algues vertes, c'est pas irréversible. D'ailleurs, on a des plans préventifs contre la prolifération des algues vertes et on observe des progrès. Mais si on enlève donc cette dune, on la recréera pas. Il a fallu des milliers d'années pour qu'elle existe à cet endroit.
Qu'est-ce qu'on sait déjà de l'exploitation de sable, par exemple, sur d'autres archipels, les îles des Glénans ou l'île de Bréhat?
Par exemple, sur les Glénans, dont l'interdiction maintenant de mer est interdite, on possède des documents photographiques qui montrent, des photos aériennes qui montrent l'étendue du panache turbide. Le panache turbide, c'est ce rejet en fait, de particules fines. Il faut savoir que pour remonter 1000 mètres cubes de sable à bord du bateau, ce même bateau va rejeter 4400 mètres cubes d'eau qui contiennent 22 tonnes de sédiments. Ces 22 tonnes de sédiments vont mettre entre 48 et 60 heures pour se redéposer sur le fond. Comme le bateau sera là une fois ou deux fois par jour, on aura un premier panache turbide qui n'aura pas atteint le fond, on aura un deuxième, on aura un troisième, ce qui fait qu'on aura un panache turbide permanent. Et à marée montante, on aura le panache turbide qui va aller sur les zones Natura 2000, et à marée descendante, au moment de la renverse de la marée, ce panache turbide revient et ira toucher la zone Natura 2000 de Morlaix. Les eaux seront troubles en permanence. Compte tenu aussi de la pollution lumineuse quand ils viendront la nuit, de la pollution acoustique quand ils pompent et de la pollution par ce panache turbide, les poissons vont fuir la région. Et les pêcheurs n'auront plus rien, ils ne pourront plus travailler à cet endroit.
Ce sont des petits chalutiers. Hein.
Des chalutiers de moins de 12 mètres en général. Et on a, alors ça c'est à noter également, je veux insister là-dessus, des jeunes pêcheurs qui prennent la suite de leurs anciens, oui.
Ici, c'est de la pêche côtière, effectivement.
Oui,
ces pêcheurs-là partent à la marée et reviennent avec la marée le soir. Ils ne partent pas pour 2-3 jours, ils vont pour la journée. Hein. Ce sont vraiment des petits bateaux, quoi. Tu le connais, non?
Oui, je vois, c'est Denis. Alors, celui qui est devant, celui qui est aux commandes, je le connais.
Qu'est-ce qu'il a? Il a des... Ah ben, il va vous décrire sa pêche.
Salut Hubert. Ah, je ne te reconnaissais pas, je m'étais trompé, toi. Tu vas bien?
Bonjour, ça va?
Ouais.
Qu'est-ce que vous ramenez de la pêche?
De la théline, du vernis, de la perche chambrière, et du homard et des araignées. On est parti à 5h du matin.
Ouais.
Oui, ça va. Faut qu'on amarre.
Ouais, on va laisser faire.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes Yvan.
Yvan, bonjour.
diminutif de Yves et Jean, c'est breton.
On vous a dit que la pêche avait été dure cet hiver, pas grand chose.
Le mauvais temps.
Ouais.
Pénalisé beaucoup par le mauvais temps, surtout les petits bateaux.
Ici, il y a une ressource dont seuls les pêcheurs peuvent nous parler, parce qu'ils l'ont beaucoup observé, c'est le lançon. Qu'est-ce que c'est le lançon ?
Le lançon, déjà, ça s'est arrivé essentiellement dans la région, pour de l'appât, pour les ligneurs.
C'est de l'appât, c'est un poisson qui se fait manger par un autre poisson.
Voilà. On s'en sert comme pour appâter sur les lignes, pour pêcher le bar et le lieu et autres. Donc s'il n'y a pas d'appât, ben, en l'occurrence, comme au Capot, là, s'ils enlèvent le sable, ben, il n'y aura plus d'appât. S'il n'y a plus d'appât, déjà les pêcheurs ne pourront plus appâter leur ligne. Et de deux, c'est le restaurant de la baie. Hein. Le poisson vient là parce qu'il y a surtout cette ressource. Quoi.
Et vous, comment vous pouvez l'attraper facilement, le lançon ?
Avec un chalut, un filet que l'on traîne derrière le bateau.
Qu'est-ce qui va se passer si cette dune de sable disparaît ?
Il n'y aura plus le restaurant, donc les autres poissons ne viendront pas non plus. Donc le bar, bien sûr, va en pâtir, enfin, tous les espèces. Quoi. Et nous, il n'y aura plus de pêcheurs non plus. Sans compter tous les dépôts que ça va occasionner, ça va recouvrir tous les coquillages, tous les... Non, là, c'est relativement clair que si jamais ils arrivent à extraire cette dune de sable, c'est la fin de la pêche, c'est la fin des coquillages, c'est la fin...
Et comment se fait-il que vous n'ayez pas été consulté ? Ça vous choque pas ?
On est petit, hein, ben non, on s'en compte pas, nous. Certainement qu'en histoire de gros sous, hein, donc...
Vous, c'est votre principal métier, la pêche ?
Oui, et je ne fais que ça.
Pêcheur à pied aussi ou pas ?
Non.
C'est deux métiers différents.
Il y en a qui le conjuguent, mais je n'ai pas le temps et je n'ai plus la santé de faire tout ça maintenant.
Vous êtes combien sur ce bateau ?
Tout seul.
Et votre femme vous aide, là, on la voit sur le quai ?
Oui.
Ouais.
Oui, heureusement. Heureusement.
Il paraît qu'on a pêché la sardine par ici.
Oui, mon grand-père a eu fait. L'usine était là.
Par bonne pêche, vous pêchez combien, vous, en volume ?
C'est dérisoire. C'est dérisoire, les volumes. On n'est pas déficit, on prend ce qu'on peut prendre, mais on vit à ce qu'on a, et puis voilà. Il n'y a pas de grosse unité ici. On fait l'été, on fait ce qu'on peut, et puis l'hiver, on fait la coquille Saint-Jacques, on met ça mieux. Voilà.
Depuis 4 ans hein, que je crois que cette concession est demandée, il n'y a toujours pas de délivrance de permis à l'impidage.
Non, il n'y a toujours pas de... Aucune décision n'a été prise. Effectivement, le dossier est entre les mains des services de l'État depuis le 15 janvier 2010 maintenant, donc ça fait 4 ans. D'abord, nous avons soulevé dès le départ les erreurs, les manquements, les omissions du dossier d'enquête publique. Par exemple, il n'y a pas eu d'état initial de la baie qui a été fait. C'est-à-dire un état pertinent, un inventaire précis de toute la faune, de toute la flore, de l'habitat, des espèces en voie de disparition, des espèces protégées. Il faut bien préciser que cette dune hydraulique est entre deux zones Natura 2000. L'État aurait dû être très vigilant et exiger l'état initial qui était incontournable au départ. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce qu'on nous dit simplement, figurez-vous, c'est qu'on commence les travaux et puis on verra. Rappelons quand même que sur les 13 communes de l'enquête publique, on dit non à ce projet.
Cette position doit être entendue également par le pouvoir central. Ce serait vraiment un déni de démocratie que de donner une autorisation quand il y a une telle opposition et des élus et de la population. Quand on n'a pas été capable de donner une position favorable, il faut refuser. Si c'est pas plus évident que ça de dire oui, il faut dire non.
On a rencontré le ministre Montebourg au mois d'août 2013 et depuis rien ne décante. Alors, c'est oui ou c'est non ? Mais qu'une décision soit prise. Si le ministre disait oui, eh bien, nous, on est prêts à attaquer devant la justice administrative. S'il dit non, on est prêts aussi à faire une soirée festive. Hein. Mais on voudrait qu'une décision soit prise parce que ça fait trop longtemps que ça dure.
Tant que le sable durera. Un documentaire de Nejma Bouakra et Asia Khalid. Merci au peuple des dunes. Coordination, Irène Omelenenko. Attachée d'émission, Christine Bernard et Eve Etienne. Prise de son, Jean-Pierre Pernel. Au mixage, Alain Joubert.
Tous les bateaux ne reviennent pas au port, et ceux qui restent dehors ont des corps. Au théâtre des poissons, les marins s'y joindront sans remords. Entre théâtre et poissons, y a la musique, les semblants fausses les préciser.
Ce documentaire demeure disponible à l'écoute sur le site de l'heure du documentaire. Demain, nous filerons sur le plateau de Mille Vaches, entre Ned et Faux-la-Montagne. Vous écoutez France Culture, voici la chronique de Céline Duchesnet.